Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Je continue nos réflexions des rencontres passées. La loi, les pharisiens, la pédagogie de Jésus qui s'identifie dans ce contexte-là. Et au fond, une question qui est importante à voir et que le catéchisme nous fait toucher à partir du moment où on entre dans le procès de Jésus, il y a ce titre « Division des autorités juives à l'égard de Jésus ». C'est important sans doute pour nous de nous représenter autrement qui a suivi Jésus. Est-ce que finalement Jésus a été très peu suivi, pas suivi du tout par les autorités juives, par les prêtres, ou finalement quand on a ce terme, le catéchisme nous dit d'emblée « division des autorités juives à l'égard de Jésus », ça laisse penser qu'il y a de chaque côté, il y a ceux qui ont suivi Jésus qui ne sont pas, c'est pas négligeable du tout, et ceux qui ne l'ont pas suivi. Donc comment l'Écriture nous aide-t-elle à comprendre quel a été ce mouvement, au fond, autour de Jésus, si on veut essayer de sortir de l'idée qu'on se fait aujourd'hui? Et qu'est-ce que c'est que cette exclusion, en fait?
Oui, alors il y a un partage des eaux très net, est né non seulement contre Jésus, mais contre les disciples de Jésus, un anti-christianisme juif, qui d'ailleurs ressort un peu partout dans le Talmud étant mis par écrit seulement au 7e siècle, donc à l'ère très tardivement, à l'époque de la constitution même du Coran, donc on ne peut pas imaginer quelque chose de plus tardif. Il y a cet anti-christianisme juif, et par réciprocité, il y a eu inévitablement de l'autre côté, de l'autre faction de ceux qui avaient accepté Jésus comme le Messie, un anti-judaïsme chrétien de résistance, si vous voulez, il fallait bien survivre. Donc on voit naître cette division dans les autorités à la tête et petit à petit la constitution de deux corps qui vont s'opposer. Le premier corps, c'est les fidèles de Jésus. Sont-ils plus nombreux que les autres? On ne le sait pas statistiquement. Enfin, en tout cas, il y en a eu beaucoup puisque la communauté chrétienne d'origine juive a été nombreuse d'emblée. On le voit avec le Nicodème, qui était un pharisien, Joseph d'Arimathie, et tant d'autres qui ont cru que Jésus était le Messie. En particulier, les prêtres qui sacrifiaient au temple et qui représentaient donc une communauté très importante. C'était la tribu de Lévi, d'Aaron, qui sacrifiaient au temple dans leurs successeurs, et qui avait saisi que Jésus, mort et ressuscité, dans le fond, apportait une nouveauté totale, qu'il avait achevé en lui un unique sacrifice qui répondait à tous les sacrifices, et c'est ainsi qu'une multitude de prêtres obéissaient à la foi, nous dit Actes 6, 7, c'est un passage très important, c'est-à-dire que la caste sacerdotale a adhéré au Messie et a compris que donc le temps du temple allait sans doute bientôt finir, ce que les événements extérieurs ont prouvé, puisque en 70 après Jésus-Christ, donc après à peine après 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus, il y a la destruction du temple. Et certains du parti des pharisiens qui n'œuvraient pas au temple, on nous dit qu'ils sont eux aussi devenus croyants en Actes 15, 5. Donc il y a eu une bonne part de la communauté juive qui a adhéré. D'ailleurs, les 12 apôtres et le remplaçant de Judas sont tous juifs. La Vierge Marie est juive. Donc il y a eu cette communauté juive forte et s'est vite adjoint ensuite à côté des hébréophones, eh bien les païens qui étaient peut-être d'origine grecque ou romaine et qui se sont adjoints à ce corps et qui finalement ont fait qu'on a oublié qu'à l'origine il y avait une communauté juive chrétienne importante. Et finalement de nos jours, on voit les juifs et les chrétiens, les juifs semblent être tous d'origine plus ou moins pagano-chrétienne et les Juifs sont le résultat de cette communauté qui n'a pas adhéré à Jésus, mais on oublie cet intermédiaire des Juifs judéo-chrétiens qui ont vraiment adhéré à Jésus. Et régulièrement, quand il y a une conversion au christianisme de Juifs, on pense à l'un des plus éminents récents, c'était le cardinal Jean-Marie Aaron Lustiger, archevêque de Paris, qui était d'origine juive et qui a bien gardé l'identité juive tout du long de son épiscopat et de son cardinalat, montrant qu'il ne voulait pas perdre cette identité juive. Donc ce n'était pas un reniement de l'identité juive, c'était un achèvement dans le christianisme. On l'a un peu oublié, et on l'a oublié sans doute parce que les autorités juives actuellement n'en font plus jamais mention de cette partie de la communauté juive qui est passée au christianisme. Et nous, absorbés par tant de nations, tant de quantités de gens d'origines diverses de tous les continents, on a un peu perdu le petit noyau de la communauté originelle juive. Sauf que on le sait seulement qu'il suffit de regarder la liste des noms des origines pour savoir qu'ils étaient juifs. Et donc, cela fait qu'il y a eu une division de la communauté, et il y a même eu une sorte d'excommunication, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'antichristianisme juif ne s'est pas contenté seulement de paroles agressives à Jésus, aux disciples, et qui a finalement conduit Jésus à sa mort, ce qui est déjà considérable et très grave, mais aussi une excommunication de ceux qui adhéraient à Jésus. Cette excommunication de ceux qui le suivaient est bien redite dans le chapitre 9. Les parents de l'aveugle-né qui avait été guéri avaient peur de manifester leur soutien à leur propre fils guéri par Jésus. Ils dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car déjà les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Exclu de la synagogue, ça veut dire excommunié. Et on sait que ce mot excommunié a été utilisé par les Juifs d'une manière fréquente au cours des siècles, même après la division entre Juifs et chrétiens. Souvenons-nous d'un grand nom, par exemple, qui est reçu par toutes les oreilles occidentales d'un homme qui a été excommunié par la communauté juive, c'est Spinoza. Spinoza, en Hollande, a été exclu de la communauté juive parce qu'il avait des théories très panthéistes, dans lesquelles on confond la création et Dieu. Mmh. Et donc, ce panthéisme, les Juifs ne pouvaient pas l'accepter. Donc, ils ont exclu Baruch Spinoza de la communauté juive, ils l'ont excommunié, proprement dit. Alors, nous devons réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire le mot excommunication? Oui. Parce que souvent, il y a une confusion entre excommunication et privation de la communion eucharistique. Est-ce que, comme on dit le mot communion pour parler de la réception de l'Eucharistie, alors excommunication, on a l'impression que c'est la même chose? Non, c'est deux choses tout à fait différentes. Parce qu'il peut y avoir des peines spirituelles dans l'Église catholique qui sont des privations de la communion eucharistique sans être des excommunications.
Oui.
On dit aux personnes, mais vous appartenez toujours à l'Église, mais vous êtes pour le moment, à cause de votre positionnement, privé de la communion eucharistique. Et nous vous demandons de vous repentir et de reprendre une attitude qui vous permettrait de retrouver la communion eucharistique. Donc c'est une chose très différente. Beaucoup de gens font la confusion. Et le fait de ne pas pouvoir prendre la communion eucharistique n'est pas en soi quelque chose nécessairement qui exclut, nous le savons bien, puisque les catéchumènes, par exemple, ne peuvent pas encore communier. Si vous avez fait un repas trop abondant, moins d'une heure avant la communion eucharistique, vous ne pouvez pas communier. Donc il y a beaucoup de cas qui font que dans l'Église catholique, on ne puisse pas recevoir la communion eucharistique, ça ne veut pas dire qu'on est exclu de la communauté eucharistique. En particulier les francs-maçons qui ont reçu la précision de Joseph Ratzinger quand il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, une petite précision sur leur cas, juste après la publication du Code de droit canonique en 1983, on précise bien dedans qu'ils sont privés de la communion eucharistique. Mais s'ils ont été baptisés, ils gardent leur vocation de baptiser. Donc on ne les exclut pas. On leur dit « faites attention, vous ne pouvez plus communier, vous êtes en danger ». Donc, réfléchissez à ce que vous faites. On comprend très bien, donc, c'est un positionnement très différent dans l'Église catholique que ce que parfois on croit avoir compris à travers les médias. Les pharisiens ont menacé d'excommunication ceux qui suivaient Jésus, et c'est un tout autre degré, c'est un degré beaucoup plus grave. C'est-à-dire, il y a la séparation qui est annoncée entre juifs et chrétiens. À partir de 90 après le Christ, il était même précisé, depuis la fameuse rencontre que les Juifs ont faite pour exclure tout ce qui était grec de la tradition juive, ils ont précisé que les ninimes et les chrétiens, les notsrim, ne pouvaient plus être considérés comme des juifs. Donc ils étaient exclus. C'est la fameuse 12e prière du Shmoneh Esreh, dans laquelle on fait même une prière de malédiction contre les hérétiques, les minimes, et les notsrim, qui sont attachés à eux et qui sont les chrétiens. Donc il y a vraiment eu, depuis Shamuel le Petit, donc en 90 après le Christ, cette exclusion de la communauté chrétienne. Avant, dans les tout débuts, il y avait des chrétiens qui allaient encore au temple, prier au temple. Et puis, quand il y a eu la destruction du temple, évidemment, ça a accéléré la division. Et donc, c'est en 90, après le Christ, que l'on peut dire qu'il y a eu le proto-schisme. Les chrétiens ont été séparés.
Il y a un moment où il faut être positionné d'une certaine façon. Un acte de foi est vraiment un acte d'adhésion d'un côté ou d'un autre.
Exactement, et sociologique même, du coup.
Oui. Merci, frère Édouard. Oui.